La télévision fait partie intégrante de nos vies. On imagine mal aujourd'hui ne pas regarder de séries sur ce petit écran. Et même si on se tourne de plus en plus vers le streaming, cette habitude de regarder des séries est restée chose courante dans nos vies. Qui n'a jamais eu de discussion passionnante autour de la machine à café à parler de l'épisode sorti la veille ? Ces séries sont de plus en plus nombreuses, et beaucoup se démarquent par leur qualité de production, digne de grands longs-métrages diffusés en salle. C'est pourquoi j'ai décidé de leur consacrer une chronique. Bonsoir, je suis Céleste du Guichet Choral, et aujourd'hui, nous allons parler de séries et de cinéma. La série date du tout début de la télévision. Dès la fin des années 40, les producteurs de chaînes cherchent surtout à amener le public et à le fidéliser sur des programmes récurrents, des rendez-vous de variété, culturels ou de divertissement. Avec l'arrivée de grands sponsors sur le petit écran, vient l'idée de produire des histoires dramatiques, hebdomadaires, basées sur le format du serial. Alors, le serial, pour la faire courte, c'est un film à épisodes entre 4 et 12 environ, diffusé avant le long-métrage principal. Ainsi, chaque semaine, les spectateurs et spectatrices revenaient dans la même salle de cinéma pour voir la suite de leur série, dont l'épisode se terminait le plus souvent par une fin inattendue, donnant ainsi envie aux gens de revenir la semaine après pour voir la suite. C'est ce format, avec les feuilletons radiophoniques et leur technique du montage, qui donneront ensuite naissance à la série télévisée. En 1951, est créée la sitcom I Love Lucy, tournée à Hollywood, dans un format proche de celui du cinéma. Celui-ci permettait de faire davantage appel à la mise en scène et le montage, là où les créations précédentes étaient très théâtrales, avec plans fixes et très peu de montage. La délocalisation en Californie des séries et l'utilisation de matériel de cinéma permettaient d'enregistrer les épisodes sur des bandes et donc de les rediffuser, allégeant les coûts de production et augmentant les budgets alloués. Le tout fait que la production des séries se déroule désormais à Hollywood et non à New York, permettant l'arrivée de meilleures ressources artistiques et techniques. On a ici les prémices de la série télé. Au début, elle s'inspirait de tout ce qui fonctionnait dans la culture de l'époque, à savoir le western et le policier, comme tout ce qui se passait au cinéma. Cela renforçait les critiques à l'égard de la télévision, qui disait que les salles étaient privées de leur public par le petit écran que tout le monde pouvait avoir chez soi. Comme la télévision était un média nouveau, le but des auteurs était de tout essayer, même si leur volonté était un peu bridée par le côté prude de l'Amérique et le fameux code Hays. Ce code désigne un texte de loi établi en 1930 par William Hays et appliqué de 1934 à 1966. Son principe était de réguler les films et était appliqué à tout autre média filmé lors de l'arrivée de la télé. Pour respecter ce code, il fallait ne pas produire un film portant atteinte aux valeurs morales des spectateurs. Ainsi, aucun scénario ne devait montrer les criminels, les méfaits, le mal ou le péché en empathie. Autant vous dire que le film Joker à cette époque, c'était pas possible du tout. Si un long métrage dérogeait à cette règle, il était purement et simplement censuré et n'était pas produit tant qu'il n'était pas conforme aux règles établies. L'abrogation du code Hays en 66 et la guerre froide avec la fameuse crise des missiles de Cuba de 62 ont permis la montée en popularité de d'autres genres, tels que le fantastique ou le space opéra avec la série Star Trek, qui était surtout critiquée pour son approche très progressiste et très communiste, ainsi que l'espionnage, où les méchants étaient bien souvent des soviétiques. Pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, c'était ces genres qui dominaient le petit et le grand écran. Les années 2000 ont connu un renouveau des séries télé, avec une amélioration des productions, un plus grand budget et de plus en plus de spectateurs à travers le monde, avec l'émergence d'Internet et du streaming. Cette renaissance a vu de la part des producteurs et des scénaristes de télévision une volonté d'offrir au petit écran une expérience plus grande, plus immersive et se rapprochant davantage de celle du cinéma. Et c'est de ce genre de série que l'on va parler aujourd'hui. Alors sachez que, comme dans tout art, il y a eu des précurseurs. Oui, la télévision est un art depuis 1961. C'est l'8e, au même titre que la radio et la photographie. Après le cinéma qui est donc le 7e, et juste avant le 9e qui est la bande dessinée. L'un des grands précurseurs de la série télévisée, s'inspirant du cinéma, ou se rapprochant du cinéma de par sa mise en scène et ses cadrages, est la série Columbo. Véritable monument de la télévision, Columbo raconte l'histoire de l'inspecteur du même nom, résolvant des crimes au fil des épisodes. Là où la série est différente des autres, c'est qu'elle se présente comme une histoire de détective inversée. En effet, le coupable est connu dès le début ainsi que son motif. Le but de l'épisode est donc de montrer si l'inspecteur va trouver le fautif et surtout comment il va le confondre. Les épisodes avaient également une durée exceptionnelle pour l'époque, de plus d'une heure, là où toutes les autres séries étaient découpées en épisodes d'environ 45 minutes. Columbo était aussi précurseur dans beaucoup de domaines. Déjà, la série était produite par Universal, une grosse boîte de production de films. Et c'est ainsi que des réalisateurs débutants faisaient leur début derrière la caméra d'un épisode de Columbo afin de prouver leur savoir-faire. C'est le cas de Steven Spielberg qui, à 24 ans, a réalisé un livre témoin, donc un épisode de Columbo. À ce propos, il a déclaré
« J'étais très difficile. Je n'acceptais aucun script de télévision, comme je voulais plutôt faire des films. Mais à un moment, il a bien fallu que je me fasse de l'argent. Donc j'ai accepté quelques scénarii. Puis j'ai rencontré les producteurs de Columbo, ainsi que l'un des scénaristes, qui m'ont demandé si je voulais réaliser un épisode. À ma lecture du script, j'ai vraiment pensé que c'était le meilleur que j'ai jamais lu. Donc j'ai décidé de le traiter comme un mini-film. Je ne l'ai pas pensé comme un épisode de série télé, mais comme un film à réaliser. Il me donne 130 000 dollars pour ce film, mais je vais le faire passer pour un film à 1 million. »
Et pour cela, il travaille sa réalisation. Là où la télé demande beaucoup de plans serrés pour voir les acteurs au plus près, il va étendre son cadrage et offrir des plans larges et aérés, bien plus cinématographiques, qui deviendront par la suite la marque de fabrication de Spielberg. Car l'écran de cinéma offrait la possibilité de faire des grands plans comme ça. Et c'était impensable sur un petit écran à cause du format bien plus miniature. Il va donc privilégier les plans plus proches des acteurs pour raconter quelque chose, et non juste pour voir mieux ce que disaient les acteurs. C'est cette construction qui lui a permis de se faire repérer par de grands producteurs pour entamer la grande carrière que l'on connaît aujourd'hui. Columbo se paye également de grands acteurs et actrices hollywoodiennes de l'époque, comme Leonard Nimoy et William Shatner, célèbres Spock et Kirk de Star Trek, ou Dick Van Dyke, autrefois Burt le cantonnier dans Mary Poppins. Bref, vous avez compris. Tous ces acteurs venus s'amuser le temps d'un épisode, élevant la série peu à peu au niveau de produits à la limite du cinématographique. Aujourd'hui, bon nombre de personnes ne savent pas où caser cette série, bien qu'elle soit composée d'un ensemble de téléfilms contenant le mot « film », mais ça reste une série télé, donc est-ce une série téléfilm ? C'est compliqué. Et ce fut là les débuts du cinéma télévisé. Et, comme d'habitude, il a fallu plusieurs années avant que cela ne se concrétise. Alors sautons quelques décennies, jusqu'aux années 2000-2010. Durant ces 20 dernières années, ont émergé un très grand nombre de séries, dont certaines étaient directement adaptées de films. Phénomène qui s'est démocratisé surtout à la toute fin des années 90, avec la sortie de Stargate SG-1, adapté du film Stargate La Porte des Étoiles, Buffy contre les vampires, ou même la série animée Men in Black, tous deux adaptés d'un film. Donc, aujourd'hui, ces séries sont de plus en plus nombreuses, à la qualité variable certes, mais je veux surtout vous parler de l'excellente série Westworld, débutée en 2016 et tirée du film éponyme, sorti en 1973 et réalisé par Michael Crichton. La série est l'œuvre du couple Lisa Joy et Jonathan Nolan, frères de Christopher, et à qui on doit les scripts de beaucoup des films de son frère, notamment les films Batman, Dark Knight et Interstellar, ainsi que la série Person of Interest. Westworld raconte l'histoire d'un parc d'attractions qui a pour thème le Far West, avec ses cow-boys, ses saloons, ses bandits. Le parc est peuplé d'androïdes ressemblant comme deux gouttes d'eau à des humains, permettant à ces derniers d'assouvir le moindre de leurs fantasmes ou de s'embarquer dans une quête épique aux ambiances de western. Westworld se démarque par son casting impeccable, dont la star de cinéma Anthony Hopkins, surtout connu pour son rôle d'Hannibal, ainsi que pour sa narration. Les créateurs ont déclaré à ce sujet aïe, on a perdu la relance d'Annie.
Oui, mais elle est là, la relance d'Annie. Allez, je n'ai pas la relance d'Annie.
Ben, je vais la dire. Alors, les créateurs ont déclaré à ce sujet: nous ne cherchons pas à faire une série en 10 épisodes, mais un film de 10 heures découpé en plusieurs parties. Et oui, on retrouve le format de céréales des années 40, à la différence près que tout est diffusé à la télévision ou en streaming. Cette volonté de se rapprocher du cinéma se remarque par la différence de moyens, la volonté de faire du grandiose avec une réalisation travaillée, multipliant les paysages magnifiques, des effets spéciaux discrets mais dignes de grands films hollywoodiens, et le fait que les créateurs soient des proches du milieu. La série en est aujourd'hui à sa troisième saison, Et comme beaucoup de séries de la chaîne HBO, Game of Thrones, True Detective, Euphoria ou encore His Dark Materials, Westworld est toujours dans son cheminement de faire une saga cinématographique épique que les gens peuvent regarder directement chez eux. Cette démarche est de plus en plus prisée par les producteurs, notamment avec l'arrivée du streaming permettant de voir plusieurs épisodes à la suite, que l'on appelle binge-watching. Le grand géant est, pour le moment, Netflix, avec son nombre incalculable de séries originales. Là où Netflix se démarquait à ses débuts, en 2007, avant l'émergence d'autres plateformes, c'était dans sa liberté de production. Grâce à ça, un grand nombre de cinéastes, voulant s'essayer à d'autres formats, se mettent à la série. C'est le cas du réalisateur Barry Sonnenfeld, qui a fait les films Men in Black et La Famille Adams, et a aussi dirigé l'adaptation de A Series of Unfortunate Events, ou Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire dans la langue de Johnny, mais aussi de Mike Flanagan, petit réalisateur de films d'horreur qui a engendré le carton The Haunting of Hill House sur Netflix. J'en reparlerai sûrement à l'occasion d'une chronique spéciale sur le thème de l'horreur et dans la manière de le réaliser. Sachez juste que The Haunting of Hill House raconte deux histoires en parallèle. Celle d'une famille de 5 enfants qui emménage pendant quelques mois dans une grande maison, nommée Hill House, et celle de la famille, de la même famille, 20 ans après les événements qui les ont marqués, les ayant forcés à quitter la dite maison. Cette série est construite, là aussi, comme une véritable fresque de 10 épisodes, reprenant plusieurs codes du cinéma pour rendre floues les frontières entre films et objets télévisuels. Notamment la façon de surprendre au niveau de l'horreur, en préférant jouer sur le sentiment d'oppression ambiante plutôt que sur la surprise, mais aussi dans sa réalisation, multipliant les trouvailles et les prouesses techniques. Je pense à l'épisode construit à l'aide de seulement 5 très longs plans, durant laquelle la caméra bouge dans un décor assez grand et des fantômes apparaissent de temps en temps, ce qui est très impressionnant à voir. Le fait que des réalisateurs ou réalisatrices s'essaient de plus en plus à la série est assez drôle, puisque Spielberg, toujours à propos de son époque pré-Colombo, disait
« À l'époque, je n'avais pas une grande opinion des séries télé. J'étais un peu snob et je voulais faire des films et non de la télé. » Mais lorsque j'ai commencé, j'avais 20-21 ans, et on m'a offert un contrat à Universal. Aucun producteur n'allait m'offrir une opportunité, même si je le voulais. Alors j'ai dû réfréner ma folie des grandeurs et m'entraîner à la télévision. Peut-être que quelqu'un pourrait me donner un film à faire ensuite.
On a donc une inversion de la tendance qui s'opère aujourd'hui. Des cinéastes qui fuient le monde codifié du cinéma, étouffés par les producteurs pour se réfugier dans un format plus libre de la série sur les plateformes de streaming. Ce qui est un peu ironique car, souvenez-vous, au tout début, c'est le monde du petit écran qui était très strict et réglementé. Cette inversion de la tendance fonctionne également dans les deux sens, car certaines sagas de cinéma se muent peu à peu en série. Je pense à la franchise James Bond qui en est déjà à son 25e film, qui est véritablement une série d'espionnage au cinéma, avec des épisodes indépendants comme pouvait l'être la série Mission Impossible, je parle de la série télé, pas des films, et qui possède des codes communs à chaque film, comme par exemple la James Bond Girl, les gadgets, les cascades, etc. Mais il existe aussi des séries de films construits comme des sagas entières, reprenant les codes du petit écran. C'est le cas des films Marvel, faisant partie de l'univers cinématographique Marvel, ou MCU. L'univers des films est basé sur une construction en sériale, donc il a attendu des spectateurs et spectatrices de regarder tous les films pour comprendre l'ensemble, un peu comme les comics dont sont adaptés les films du MCU. Mais la construction pouvant rappeler la série télévisée ne s'arrête pas là, puisque les producteurs font, la moitié du temps, appel à des réalisateurs très peu connus pour un de leurs films, ce qui leur permet de les contrôler suffisamment pour avoir un produit cohérent avec le reste de l'univers, comme c'était l'usage dans les débuts de la télévision. Ce qui donnait lieu à une réalisation très peu marquante et classique, rentrant dans le moule du reste de la saga. Bien sûr, il arrive parfois que l'on ait un Steven Spielberg sur Columbo, à savoir un réalisateur qui sort du lot en apportant son savoir-faire et des trouvailles visuelles. Et je trouve cette inversion de la tendance assez intéressante, parce que ça montre que les arts finissent toujours par se répondre, même là où l'un est un peu l'enfant de l'autre, la télévision ayant été inventée pour permettre aux gens de rester chez soi pour profiter d'un divertissement, au lieu d'aller dans les salles de cinéma. L'influence mutuelle qu'ont ces deux médias nous permet de profiter de nouvelles créations originales, brisant un peu la monotonie des séries et films classiques qu'on nous sert depuis des lustres. La vision est ainsi différente et les trouvailles se multiplient, pour mon plus grand bonheur. De plus, les services d'offres à la demande rendent d'autant plus flou cette frontière entre séries et films en les montrant côte à côte dans leur catalogue, comme des produits d'une même étagère, disposant juste d'un format différent. Regardez des séries si le cœur vous en dit. Moi, je sais que je vais continuer à me régaler de ces objets télévisuels cinématographiques.
Merci Céleste pour ce nouveau guichet choral qui se termine sur une note assez dramatique.
Oui.
C'est hyper. On est intense ce soir. Je vais arrêter. J'ai trop peur. Mehdi, Céleste, vous avez des conseils, des coups de cœur à partager sur les séries et ou le cinéma ou les séries qui ont un lien avec le cinéma ? J'ouvre. Mehdi, toi, t'as un truc sous le coude.
Moi, j'ai regardé en quelques jours, là, il n'y a pas longtemps, la série Cobra Kai.
C'est quoi ?
Donc c'est la suite de Karate Kid avec les on dit protagonistes, c'est le héros ça,
ouais,
qui est Daniel LaRusso et l'ennemi l'antagoniste Johnny Lawrence pour les connaisseurs de Karate Kid. Et la série ça reprend quand ils sont plus vieux, quand ils ont genre la cinquantaine je crois, ou et c'est grave stylé. Pour ceux qui kiffent les combats, bah, ils vont bien aimer. Et puis la psychologie, c'est vraiment bien fait et tout. C'est pas une vieille série après des bons films, je sais pas comment dire.
Ouais, c'est pas quelque chose où tu te dis j'aurais pas dû aller au-delà du film.
Ouais, voilà,
en fait,
ouais.
La série vaut le coup. C'est des épisodes qui sont longs, qui sont courts ?
30 minutes.
30 minutes, on les trouve où ?
Sur Netflix.
Ok, ça marche.
Personnellement, bah, pas plus que les séries dont j'ai parlé, dont je voulais parler dans la chronique, donc The Hunting of Hill House. Et la saison 2, qui n'a rien à voir avec la saison 1, qui s'appelle The Hunting of Bly Manor. En gros, c'est une série qui parle d'un endroit hanté, d'une maison hantée souvent. Et voilà, il y a plein d'apparitions, de fantômes, mais l'intrigue ne se concentre pas vraiment sur ces apparitions, mais plus sur le poétique, le dramatique, les liens entre les personnages. Et c'est extrêmement bien écrit, c'est super bien réalisé. L'ambiance est vraiment... soit dramatique, soit cool, soit oppressante quand il faut. Et la musique aussi est très jolie. Voilà, je conseille donc les deux saisons de The Hunting, Hill House et Bly Manor.
Il n'y a que deux saisons ?
Pour l'instant, il n'y a que deux saisons. Ils n'ont pas annoncé une troisième. Et les épisodes font à peu près entre 50 minutes et une heure. C'est sur Netflix.
Ouais,
oui, c'est un peu plus long du coup. Mais c'est vraiment beau. Et puis du coup, Westworld, dont j'en ai parlé tout à l'heure, qui sur le parc d'attractions, qui... au début est assez ambiance western, mais qui se mue peu à peu en une série de science-fiction. J'ai pas envie de trop en dire dessus, mais c'est impressionnant, c'est très intéressant dans sa façon de réfléchir les choses, parce que ça aussi il y a aussi des questions sur la condition humaine, et c'est vraiment bien écrit.
Ok. Moi ça m'impressionne à chaque fois quand on parle de série, parce que j'ai l'impression que si je me mets à en regarder une, je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. C'est la question du temps. Ça vous parle Fleabag comme série? C'est une série qui a été diffusée et produite par HBO.
Je connais pas moi.
Petit focus coup de cœur qui me concerne, Fleabag. Donc c'est 6 épisodes qui font 25 minutes. C'est hyper rapide. Il n'y a que 2 saisons, donc c'est bon, on ne va pas passer toute sa vie là-dessus. Ça a été écrit et réalisé par Phoebe Waller-Bridge. C'est une série anglaise. C'est très drôle, mais pas que drôle. En fait, c'est un peu indescriptible. Ça passe très vite. Et on suit ce personnage qui n'a pas vraiment de prénom. Fleabag, ça veut dire sac à puce, si je ne me trompe pas. Ça avait été adapté par Canal+ dans la série Mouche, la version française. Mais je vous conseille vraiment de voir la version anglaise.
Ok.
Sans aucun doute, et en VO aussi, parce qu'en termes de rythme, de la langue, etc. Et donc on suit cette jeune femme, qui doit être trentenaire à peu près, qui est urbaine, et qui est à la fois tout à fait banale, entre guillemets, mais très décalée aussi. Et puis il y a des choses de mise en scène. Enfin, voilà,
mais ça parle de quoi ?
On la suit. Ça parle de quoi? On la suit, par exemple, il y a des fois, elle retrouve son père, sa belle-mère, tu vois, de ses relations avec sa belle-mère, de sa sœur. Tout le monde est un peu timbré dans cette série.
Ouais.
Chaque épisode, il y a un nouveau truc, mais vraiment, je veux pas vous le dévoiler, mais c'est. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup ri. Il y a aussi de l'émotion. On pleure parfois. Mais ça passe vite, c'est bien. Voilà. Regardez Fleabag. Peut-être que je vais faire ça, moi, ce week-end.
Ok.
C'est fastoche.
Et sinon, de temps en temps, revoyez-vous quelques épisodes de Columbo, c'est toujours sympathique.
Mais tu dis ça ironiquement ou vraiment?
Non, vraiment, c'est très, très impressionnant dans sa façon d'être et c'est très, aussi, c'est très intéressant. Et Columbo est vraiment génial.
Ouais, là, tu parles à une aficionado de Columbo. Hein. Je me dévoile à l'antenne, mais vraiment, on pourrait faire une émission spéciale. Moi, j'aime beaucoup. On sait toujours ce qu'on va trouver dedans. Évidemment, on a le meurtrier ou la meurtrière dès le début. Lui, il arrive, il a l'air de vraiment pas maîtriser son sujet. Tout le monde pense qu'il est là par hasard. Et les méchants, entre guillemets, n'ont jamais peur de lui. Et il gagne toujours. Et en plus, il performe pas non plus quelque chose du pouvoir, du flic habituel. Et en plus, il a un chien qui est vraiment rigolo. Non, mais il y a énormément de choses à dire sur Columbo, notamment dans la mise en scène. Si vous regardez, si vous allez jeter un œil, c'est aussi quelque chose, une écriture qui est assez lente, entre guillemets, avec une écriture qui se permet des scènes, entre guillemets, qui n'ont rien à voir, qui n'apportent rien. Genre, ah ouais, bah on va voir... Columbo qui cherche un endroit pour mettre son cigare ou qui cherche du genre. Enfin, il y a aussi des trucs un peu de la vie quotidienne qu'on pourrait couper, mais qui sont une écriture aussi.
Ça apporte de l'ambiance après dans la... Et ça a aussi de l'empathie envers le personnage de Columbo.
Je vous laisse juge. Voilà. Céleste, tu avais choisi une musique.
Oui, je vous ai choisi The House of the Rising Sun de The Animals, qui est une assez vieille chanson puisqu'elle est sortie dans les années 60. Donc à l'époque de Columbo, et qui a eu le droit à une reprise au piano dans Westworld. Donc on est pile dans le thème. Prenez soin de vous et salut.